Chers frères et sœurs, autrefois, il y avait des missions paroissiales. Des religieux se rendaient dans une paroisse, en général au moment du carême, et puis prêchaient dans les rues, prêchaient dans les églises. C'était pour ramener les gens au bon Dieu dans cette période de conversion qu'était le carême. Et puis il y avait des moments particulièrement attendus, notamment une cérémonie sur les fins dernières, et dans l'église, l'orgue était équipé spécialement au moment de l'évocation de l'enfer, d'instruments qui faisaient entendre des grincements, des roulements sinistres, à tel point que, vous savez que les religieux spécialistes des missions et les rédemptoristes, on les avait appelés les rédempteroristes. Voilà pour Alors, effectivement, on cherchait la conversion, mais au prix de la crainte. Ce n'était pas tellement important de croire. Ce qu'il fallait, c'était craindre. Il y a une courtisane qui répondait si justement à cette question qu'on lui posait, « Croyez-vous à l'enfer ?» Elle disait « Non, je n'y crois pas, mais j'en ai peur. » Eh bien, on comprend qu'avec de telles considérations, on n'est plus tellement apprécié de parler des fins dernières, c'est-à-dire l'enfer, le ciel et le purgatoire. Mais est-ce qu'il n'est pas opportun, avec cette fin d'année liturgique et les textes que la liturgie nous propose, de regarder avec une nouvelle intelligence ces fins dernières? Regardons, écoutons Jésus plutôt. Il nous enseigne en profitant des circonstances. Je vous recite l'évangile. Comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, ils admiraient les belles pierres, les ex-voto qui le décoraient. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en reste pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Quand on fréquente un peu la Bible, à chaque fois qu'il est parlé des temps ultimes, eh bien, la Bible va souligner la disparition, certes du mal et de la corruption, mais aussi des splendeurs qui nous entourent. Ce temple est une splendeur, c'est une merveille. Je pense à la ruine de Tyr dans le prophète Ézéchiel, qui est un des plus beaux passages de la littérature universelle, à mon sens. Tyr, cette ville du Liban, étant comparée à un navire qui petit à petit sombre, un navire somptueux qui sombre dans les eaux. Et dans l'Apocalypse, je vous cite, la ruine de Babylone, on ne parle pas de corruption, en tout cas en ce passage-là, la voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan, aucun métier ne se trouvera jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera plus. C'est intéressant parce que on évoque toute une ruine de choses très valeureuses, très belles, voire de valeur, voire de civilisation. Pourquoi cela ? Une seule chose compte qui doit passer dans l'éternité, c'est notre cœur. Vous valez ce que vaut votre cœur, disait Jean-Paul II aux jeunes. Or, nous l'oublions très souvent par tous les intérêts que nous portons au monde qui nous entoure et nous sommes comme distraits de cette attention au cœur. J'aime les belles voitures, peut-être. J'aime immodérément le golf, les voyages, la musique, les jeux vidéo, mon look. Est-ce que parfois ça ne devient pas mon unique horizon ? On évoquait avec un frère un film avec Dujardin, Le Dain. Ce gars qui est complètement fanatique de son blouson et qui veut tout faire pour conserver cette suprématie de ce plus beau blouson du monde et qui est prêt à tout pour le conserver. C'est plus profond que ça n'en a l'air. Saint Paul nous dit, si vous achetez, faites comme si vous n'achetez pas. Que ceux qui se marient, comme s'ils ne se mariaient pas. Alors vous qui vous préparez peut-être à ce sacrement du mariage, il est bon que ce ne soit pas votre unique horizon. Parfois, en surinvestissant la signification de l'acte que vous allez poser, eh bien, vous vous bloquez. Elle est grave, cette décision, certes, mais il y a une décision ultime qui est le choix ou non de Dieu au plus profond de votre cœur. Voilà. Voilà ce que peut nous apporter cette contemplation des derniers temps. Se mettre devant les cieux qu'on roule, devant la terre qu'on roule, comme dit l'Écriture, comme si c'était un tissu, c'est se mettre finalement devant soi-même. Qui suis-je ? Nous vivons aujourd'hui, par rapport à nous-mêmes, sous le régime du voilé, du brouillard. Je ne sais pas ce que je vaux. Suis-je de ceux qui craignent Dieu, comme dit Malachi dans la première lecture ? Ou au contraire, est-ce que je suis dans le clan des arrogants ? Je ne le sais pas. Je ne peux me juger encore, et encore moins juger les autres. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je veux la vérité, à commencer la vérité sur moi-même. Nous ne voulons pas rester dans l'incertitude. Voilà. Eh bien, cette quête de vérité, elle sera comblée au moment du jugement, au moment du retour du Seigneur. C'est une terrible souffrance que d'être dans l'incertitude. Et l'absence du jugement nous y condamnerait. Au moment du jugement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que nos options les plus profondes vont émerger. Et il est important, pour évoquer ces options, de se dire d'abord de quoi je suis capable. Je suis vraiment capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, avec cette pensée un peu bisounours de la bienveillance, nous irons tous au paradis, comme disait Paul Naref. Eh bien, on a gommé, tout cela a touché nos cœurs, nos mentalités, et on a perdu cette dramatisation de l'option que je peux poser dès cette terre, choisir Dieu ou le refuser pour l'éternité. Oui, je suis capable, dans une première option, effectivement, de refuser Dieu totalement. Il s'agit nullement d'envoyer, quand on parle de l'enfer, des gens en enfer, hein, mais d'évoquer l'enfer comme une possibilité pour moi, de remettre toute la responsabilité que j'ai par rapport à cette destinée éternelle. Nul ne va en enfer contre son gré. Il y a presque, comme on pourrait dire, une satisfaction d'y être. J'ai fait ce que j'ai voulu. Le Seigneur n'a pas mis de garde-fou devant cet immense précipice, parce qu'il m'estime trop pour cela. Il estime trop ma liberté. Voilà, vous le savez, au-dessus de l'enfer de Dante, cette phrase, l'amour m'a fait. Il faut voir aussi, peut-être, que dès cette terre, nous sommes tout à fait capables de nous créer un enfer ou de le créer pour les autres. Commençons par nos propres vies, nos petits refus de pardon, nos petites duretés, l'affirmation de nous-mêmes, indue, dont, sur lequel nous ne voulons pas revenir, cela s'accumule comme de la dureté. Et si nous restons fidèles à cette option, cela peut nous couper de Dieu. Inutile de faire d'immenses péchés qu'on voit dans les journaux. Il ne s'agit pas de ça. Si nous parlons de l'enfer, attention, c'est toujours parce que c'est le revers d'une médaille. Ce n'est pas le premier point. C'est parce que de l'autre côté, il y a le ciel, la possibilité libre de choisir Dieu de tout son être, de toutes ses forces. Voilà aussi de quoi je suis capable. Vivre le don de Dieu, le don de soi-même à Dieu, en plénitude, l'oubli de soi. C'est si important de se redire cela pour soi-même. Nous devons viser au terme de notre vie, le ciel directement et non pas le purgatoire. La sainteté, le Concile l'a rappelé, cette option universelle de la sainteté. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté, sinon la plénitude de la charité ? Et le pape François a voulu illustrer cet appel universel à sainteté en nous disant « Il y a des saints à la porte à côté ». Les saints de la porte d'à côté, c'est dans un de ses très beaux textes qu'il les a évoqués, quelques-uns autour de nous. Par exemple, cette maman célibataire qui veut garder son enfant, qui l'élève héroïquement, qui trouve dans les seigneurs son réconfort et sa paix. Ce malade qui, après un temps de révolte, accepte sa maladie, qui l'offre au Seigneur, qui vit de prière et d'attention aux autres. Cette personne âgée qui refuse de s'aigrir, ces jeunes qui restent purs au milieu d'une génération pervertie. Nous sommes appelés à cette plénitude. Alors voilà, au moment de notre mort, il y aura peut-être pas mal de poussière encore dans notre cœur, il y aura peut-être pas mal de ménage à faire encore. Alors pas de panique, il y a une option. Il y a une autre option, c'est l'option purgatoire. Elle existe et c'est une bonne nouvelle. C'est du réalisme. Nous ne serons peut-être pas au maximum de l'amour quand nous serons appelés à contempler le bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire ? C'est le soleil de Dieu qui consume toutes nos iniquités, comme dit la première lecture. Il porte dans ses rayons, ce soleil, la guérison. S'exposer à l'amour et se dire « je n'en ai pas été digne », voilà ce que c'est que le purgatoire. Mais vous le voyez bien, le purgatoire, on y va un peu contre son gré quand même. On n'est pas complètement satisfait, alors autant le demander sur la terre. Il y a, sur la terre, en demandant ces purifications, eh bien, une possibilité d'accéder justement à cette plénitude de l'amour. Il faut demander au Seigneur qu'il nous donne assez de jours dans notre vie pour qu'on soit prêt. Et assez d'épreuves aussi, mais il saura les doser pour nous purifier. Parce que qu'est-ce qui se passe tant qu'on fait son purgatoire sur la terre ? Notre cœur peut continuer à s'élargir. Notre capacité d'amour peut continuer à s'étendre. Une fois qu'on a franchi la barre de l'éternité, tout est bloqué. Notre petit ver restera un petit ver. Vous savez, c'était l'image que Sainte Thérèse prenait. Quand est-ce que ça se passera au ciel ? Comment est-ce que ça se passera pour que chacun vive en plénitude de bonheur ? Eh bien, elle dit, on est comme des petits vers. Il y a des petits vers et des grands vers. Ceux qui auront une vie pleine d'un amour très héroïque auront des très grands vers. Ceux qui auront fait juste ce qu'il faut auront des petits vers. Mais chaque vers sera rempli. Alors, ayons non seulement l'ambition d'avoir des vers remplis, mais aussi des grands vers. C'est comme ça qu'on fera du bien à l'Église. C'est comme ça qu'on le changera le monde. Alors voilà, je vous laisse juste cette belle prière qu'on dit parfois à la fin de la confession pour justement inviter à faire de notre journée, de notre vie sur la terre, une belle phase de purification. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les prières de la Vierge Marie et de tous les saints, ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce et vous mérite la vie éternelle. Que Marie, porte du ciel, nous accompagne sur ce chemin et nous ouvre grand les bras à l'heure de notre mort.